Place Info.
Bonsoir à la une, Patrick Balkany, condamné, dort ce soir en prison. Nous serons en ligne avec son épouse Isabelle Balkany depuis la mairie de Levallois-Perret. Les leçons également ce soir de la mort de Steve à Nantes, la grève massive à la RATP et les retraites en question. C'est dans les informés avec Maud Verniolle, chef du service politique de l'Humanité, avec Hélène Pilichowski, journaliste politique, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. La justice n'a donc pas traîné. Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret, va donc dormir ce soir à la prison de la Santé après sa condamnation à 4 années de prison ferme pour fraude fiscale. Bonsoir à vous, Isabelle Balkany.
Bonsoir, Jean-François Guilly.
Merci d'avoir accepté ce direct ce soir sur France Info depuis votre bureau de la mairie de Levallois. Ma première question, Isabelle Balkany, tout d'abord, tout simplement, comment avez-vous reçu, si je puis dire, cette annonce, cette condamnation de l'incarcération de votre époux?
Écoutez, je ne voudrais pas la qualifier d'un terme pugilistique, mais c'est une énorme charge émotionnelle, vous le comprendrez facilement, mais qui a deux volets. D'abord de la souffrance, parce que il se trouve, et la vie est ainsi faite, et même si les réseaux sociaux haineux doivent dire que c'est de circonstance, mais ce n'est pas le cas, comme ils ont dit que j'avais mimé ou fait une fausse tentative de suicide pour ne pas aller au procès alors que je voulais y aller. Il se trouve que les pépins de santé, comme vous le savez, ça ne prévient pas. Et mon mari, qui avait déjà eu l'ablation d'une tumeur à la colonne vertébrale, s'est remis après le procès, parce qu'on l'a laissé debout pendant des heures et des heures, s'est remis à avoir des douleurs extrêmement violentes. Et après la énième IRM, la énième perfusion, la énième, il s'est retrouvé à Pompidou sous perfusion de morphine. Et puis, il y a quelques jours, les médecins ont trouvé une masse à la hanche, qui est une masse tellement suspecte qu'hier matin, il a subi une biopsie à Marie Curie, spécialisée dans les problèmes de cancérologie.
Isabelle Balkany, vous nous dites ce soir que votre mari...
C'est une masse, c'est Patrick... une opération chirurgicale, ouais. Il ne veut pas passer pour une victime, il n'a pas voulu le dire.
Vous dites qu'il a un cancer ce soir.
Vous nous dites pas, qu'il... il a un cancer, ouais. Attention, vous savez, il faut se méfier, Jean-François Aquili, avec les mots, un cancer, c'est pas un cancer généralisé.
Une tumeur. Hein,
c'est, en tout cas, dans l'état actuel des choses, c'est une masse si suspecte qu'une biopsie a été nécessaire et que les chirurgiens disent qu'il faudra l'opérer, le tout est de savoir ce qu'ils opèrent.
Oui. Isabelle Balkany, on a bien compris, vous n'aviez d'ailleurs révélé la semaine dernière en direct sur France Info, mais vous étiez auprès de lui, avec les avocats, vos avocats respectifs, dans le tribunal, vous avez
bien
pu
sûr.
Lui approcher, vous avez pu échanger avec votre époux avant qu'il ne parte en prison?
Mais nous étions l'un à côté de l'autre. Alors vous savez, Jean-François Guilly, après 43 ans de vie commune, ce qui, en ce moment, à notre époque, est assez rare, il n'y a plus besoin de mots. Les regards et les baisers suffisent. Mais je voulais vous dire aussi, quand je vous dis que ma charge émotionnelle a été double, parce que là, elle a été une souffrance, mais elle a été aussi une indignation.
Ouais.
Parce que tout le monde a remarqué, tous vos confrères ont remarqué, tous les spécialistes ont remarqué, que lorsqu'il a lu des extraits des attendus du jugement, le président a tenu à dire deux fois qu'il n'y avait pas un centime d'argent public dans cette affaire.
Vous voulez dire quoi ce soir? Pas d'enrichissement personnel sur de l'argent public?
Mais absolument, ouais. Que ça ne concerne en rien la gestion de la ville de Levallois. Mmh. Et c'est ce que nous avons toujours dit, c'est une affaire privée. Attendez, laissez-moi finir s'il vous plaît. C'est une affaire privée. C'est du patrimoine familial qui remonte à plusieurs décennies, hein, parce que c'est bien de ça dont on parle, et qui, pour des raisons familiales diverses, ont fait que nous avons fait une faute, clairement.
Alors.
C'est-à-dire que nous n'avons pas fait, vis-à-vis du fisc, nous avons fait une faute. Une faute mérite sanction.
Alors justement, Isabelle Balkany, humiliation a déclaré maître Éric Dupond-Moretti, je le rappelle, qui est l'avocat de Patrick Balkany, votre époux. Mais j'ai envie de vous dire, d'autres personnalités par le passé ont écopé de peines de prison pour fraude fiscale. Ce n'est pas inédit.
Ah, c'est totalement inédit. Ce qui est totalement inédit, c'est le mandat de dépôt. Voilà.
Ouais.
Alors on est bien clair, on est bien clair. D'après ce que j'ai entendu et de vos confrères spécialisés et des experts aujourd'hui, c'est totalement inédit.
Alors, maître Olivier Sûr, Pierre-Olivier...
Donc, je trouve qu'effectivement, il devait y avoir sanction, mais que la sanction est disproportionnée.
Vous dites disproportionnée ce soir, votre mari ne devrait pas dormir en prison. Évidemment que vous dites ça ce soir, c'est normal, vous êtes son épouse. Oui.
Et je l'aime depuis 43 ans parce que je l'admire et que je suis extrêmement fier de tout ce qu'il a accompli de notre ville, cette ville de Levallois qui est notre vie, et cette famille levalloisienne, ces levalloisiens qui sont notre famille.
Pour bien comprendre ce qui se passe ce soir, Isabelle Balkany, maître Pierre-Olivier Sûr, qui est votre avocat, a immédiatement interjeté appel vous concernant. Donc tout cela, parce que vous avez été condamné vous-même, tout cela est suspensif. Vous nous parlez ce soir depuis votre bureau de première adjointe de la mairie de Levallois. Vous êtes donc en poste et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez gérer les affaires courantes?
Attendez, Jean-François Aquili, il y a un code général des collectivités.
Oui.
Qui dit que lorsque le maire est empêché, ce qui est le cas, et je l'espère, le moins longtemps possible, c'est le suivant de liste qui assure l'intérim du maire.
C'est vous.
Le suivant de liste, c'est moi, puisque je suis premier adjoint, et donc j'assume l'intérim du maire.
Quid de Patrick Balkany? Il dort ce soir à la prison de la Santé. Je ne sais pas si je peux vous poser la question, mais vous allez pouvoir le contacter. Comment ça se passe dans ces cas-là? Ça se passe par avocat interposé?
Oui, absolument. Enfin bon, mais de toute façon, je suis comme toutes les femmes. Évidemment, dès que les avocats, dès que les procédures administratives, on est en France.
Il n'est plus maire de Levallois ce soir.
Si, je ne suis que maire par intérim.
En clair, qu'est-ce
qu'il est empêché. Ouais. C'est un maire empêché, mais c'est un maire élu par le suffrage universel.
Vous savez que s'il y a un appel le concernant et que s'il, à terme, alors ça peut durer des jours, des semaines peut-être, s'il finit par sortir de prison, Isabelle Balkany, s'il y a un procès en appel, ça va durer des mois. On parle de 18 mois en général, en moyenne, pour que le procès se poursuive en appel. Ça signifie que...
Non, Jean-François, qu'il ait posé toutes ces questions qui sont purement juridiques à nos avocats, parce que, voyez-vous, j'ai commencé à apprendre le droit et j'ai calé avec le droit constitutionnel, alors je ne suis pas qualifié.
Ça veut dire qu'au fond, ça va vous porter au-delà du mois de mars, au-delà des élections municipales. Est-ce que vous êtes ce soir dans une situation, j'imagine, d'abord il y a le choc de l'émotion, mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Vous administrez donc Levallois par intérim, c'est ce que vous dites? Et ensuite.
Mais ensuite, monsieur Aquili, il y aura des élections et les Levalloisiens voteront, comme ils l'ont toujours fait, le suffrage universel, qui est quand même le fondement de notre démocratie, s'exercera et les Levalloisiens diront qui ils souhaitent avoir comme maire. Vous savez que c'est pas une liste unique, hein, il n'y aura pas de liste unique.
Bien évidemment, est-ce que vous envisagez, c'est trop tôt, vous allez me répondre que c'est trop tôt pour répondre à cette question, j'imagine, mais comprenez que je vous la pose parce que, au fond, les Levalloisiens se la posent également ce soir. Est-ce que, à terme, vous pourriez être vous-même candidate à la mairie de Levallois?
Monsieur Aquili, nous avons un tête de liste qui est Patrick Balkany. Et nous avons une équipe soudée derrière lui. Et une équipe soudée qui est constituée d'hommes et de femmes qui veulent s'engager au service des Levalloisiens, et on se fiche pas mal de leurs étiquettes politiques, parce que ce sont des étiquettes qui se mettent au service des administrés. Ce sont des hommes et des femmes qui ont la possibilité et qui veulent faire quelque chose.
Vous nous dites ce soir que Patrick Balkany, qui passe, je le rappelle, sa première nuit à la Santé, sera candidat à la mairie de Levallois, finalement.
Mais écoutez, monsieur Aquili, je ne suis pas Madame Soleil. Bien que je l'ai fort bien connue et qu'elle soit inhumée à Levallois. Hein? Je ne suis pas là pour vous faire des prédictions. Je vous répète ce qu'a dit mon époux, c'est qu'il serait candidat. Et nous sommes une équipe soudée derrière lui.
Encore quelques mots avec vous, Isabelle Balkany.
Avec plaisir.
Quel est votre ressenti à l'instant où nous parlons ce soir? Quels seront les prochains jours en ce qui vous concerne? Parce qu'au fond, vous allez devoir rencontrer la population. C'est un moment un petit peu étrange.
Mais, monsieur Akili, la population, je l'ai déjà rencontrée. J'étais à la mairie toute la journée. Les Levalloisiens ont signé une espèce de pétition pour demander que l'on installe dans le péristyle de l'hôtel de ville un livre de soutien à leur maire pour qu'ils puissent signer. Les Levalloisiens sont magiques, je dirais.
Ouais.
Mais peut-être parce que nous avons, depuis 35 ans, su instaurer avec eux des relations qui sont un peu atypiques de proximité, d'empathie. Voilà. Ah, donc, je n'ai aucun souci. Demain, j'irai apporter ses affaires à mon mari. Dimanche, je serai au marché avec les Levalloisiens. Lundi, j'ai une grosse réunion de chantier parce que nous avons depuis 20 ans un relais des sans-abri qui n'accueille que des hommes, alors qu'il y a en ce moment, comme le dit très justement Marlène Schiappa, des beaucoup de femmes qui sont violentées et qui se retrouvent hors de chez elle, et donc je vais voir comment nous pouvons réaménager les locaux pour que ça ne soit pas un accueil.
Donc la vie continue
lundi
en quelque sorte.
Lundi soir, je dirigerai la réunion de la majorité municipale, et la semaine suivante, je présenterai le conseil municipal.
Vous avez vu ce qu'a dit, déclaré Didier Schuller sur France Info. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que c'est l'ancien bras droit de Patrick Balkany et qui a livré à la justice les documents qui ont au fond déclenché ces investigations sur votre patrimoine. Il dit, compte tenu de l'âge de Patrick Balkany, est-ce que le passage par la prison était indispensable? Je pose la question, il s'interroge, mais il ajoute qu'il était indispensable de faire en sorte qu'il ne puisse plus être maire de Levallois. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir? Vous
l'avez bien connu. Monsieur, d'abord, je ne réponds pas à ce personnage qui a été lourdement condamné pour des détournements personnels, alors que mon mari lui avait fait, et que dans le département lui avait fait confiance pour diriger une institution énorme de logements sociaux, et qui a été condamné lourdement pendant un procès durant lequel mon mari a eu un non-lieu, et le président du tribunal a tenu à dire publiquement qu'il ne comprenait
pas
pourquoi mon mari était à l'audience. Bon, alors je ne réponds pas à ce personnage. Vous savez, ce genre de personnage, il y en a eu beaucoup à partir de 1940.
Merci en tous les cas, Isabelle Balkany, d'avoir répondu à nos questions sur France Info en direct de la mairie de Levallois.
C'est moi qui vous remercie, Jean-François Akili, de m'avoir donné la parole.
Merci infiniment. Merci. Bon tour de table avec nos invités. Bonne soirée. Je commence par vous, Maud Verniolle. Première réaction à ce récit, à cet échange, ce qui a été dit par Isabelle Balkany concernant le sort de son mari, Patrick Balkany.
Moi, je crois que personne ne peut se réjouir qu'un homme passe sa vie en prison. Ce n'est pas du tout ça le débat. Et c'est bien normal qu'elle en soit triste. Mais le problème, il n'est pas du tout là. Cette condamnation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, c'est un clap de fin à 35 ans d'impunité de la part d'élus de la République qui ont fraudé fiscalement. On parle quand même de 11 millions d'euros qui ont confondu les caisses de l'argent public avec leur argent de poche, qui ont fait beaucoup de mal. C'est parce que c'est aussi la fin d'un système, cette condamnation. C'est la fin d'un système d'une droite affairiste dans les Hauts-de-Seine qui a fait beaucoup de mal à la République, au pacte républicain, qui a nourri le tous pourri. Alors qu'il faut quand même le rappeler, ça fait jamais de mal, qu'une grande majorité, la grande majorité des élus sont tout à fait honnêtes et même consacrent
leur
vie
personnelle. Pour vous, la
justice,
finalement, à passer, c'est normal. Voilà, c'est ce que vous dites ce soir.
Bah, bien sûr.
Hélène Pilichowski, la casse-prison, indispensable ou pas?
Oui. Non, je voulais corriger parce que vous parlez de l'argent public qui était détourné. Ce qui est en question, c'est dans la deuxième partie.
Oui,
c'est
raison,
le volet plus grave,
corruption,
plus grave encore, corruption, ce qui est plus grave qu'effectivement, simplement, de la fraude fiscale. En fait, là simplement, il n'a pas déclaré des biens qui l'auraient assujetti à l'ISF. Donc c'était ça en fait. Donc la casse prison. Moi, je ne suis pas pour. Je suis obligé de. Voilà. Non, je ne suis pas des genres de personnes qui se réjouissent que quelqu'un soit effectivement incarcéré. Pourquoi? Je pense qu'il y a des sanctions. Il méritait d'être condamné. Personne ne peut douter de ça, bien évidemment. Mais ce mandat de dépôt intervient un peu. Bon, à la fois comme une humiliation, c'est ce qu'a dit son avocat, mais peut-être aussi de la part des magistrats en disant ça suffit, celui-là, on va le coffrer, il en a assez fait, on va le coffrer ce soir et il l'aura bien cherché. Je pense qu'il a joué contre lui de la façon dont il s'est comporté pendant l'audience. Il a été quand même assez arrogant. C'est sa nature, c'est quelqu'un qui est éminemment sympathique.
Pour vous, ce n'était pas indispensable de l'incarcération.
Mais non, ça n'apporte rien. Il faut qu'il paye, c'est-à-dire qu'il soit effectivement peut-être inéligible. On verra ça dans la deuxième phase. base de la, de, du jugement, des jugements, mais qu'il ait des amendes qui correspondent à ce qu'il a fraudé, etc., très lourdes, comme a eu Jérôme Cahuzac, qui a été totalement ruiné, tout ça, ben ça, on peut admettre que c'est peut-être une punition grave, mais nécessaire. Le mandat de dépôt à l'audience, c'est pas quelqu'un qui a torturé du monde, il n'a pas assassiné, il n'avait pas envie de fuir, etc., etc.
Alors, messieurs, vous allez réagir également à ce qui a été dit par Isabelle Balkany. Je vous propose quand même, parce qu'elle évoquait le cas des Levalloisiens, d'écouter ce qu'en ont dit les habitants de la ville. Regardez bien, écoutez bien ces témoignages.
Justice doit être rendue. Ceci dit, ça n'empêche pas que c'est un très bon maire et que je revoterai pour lui s'il se représente.
Il faut dire que Levallois, moi j'y suis depuis 35 ans, et il a bien embelli Levallois.
Moi, je suis plutôt satisfait du jugement, même si la prison était nécessaire.
Il est puni. Moi, si j'avais fait la même chose, je serais peut-être déjà en prison depuis un certain temps.
Un avis très partagé. Franck de Dieu, beaucoup d'habitants de Levallois, au fond, pour avoir même fait des reportages personnellement dans Levallois-Perret, répètent, c'est pas ma partie, mais la ville est plutôt pas mal, elle est plutôt bien gérée. Il y a cette ambiguïté.
Il y a cette ambiguïté sur laquelle il joue largement et sur laquelle son épouse aussi. Il veut s'en remettre, si on l'a bien compris, il veut s'en remettre au suffrage universel qui serait en fait le recours quelque part qui irait à rebours de la dureté judiciaire en disant finalement le peuple est souverain, il a toujours raison par rapport au juge qui me pose un problème d'égalité de traitement. Moi je crois que lorsqu'on est élu du suffrage universel, on a un devoir d'exemplarité. Ce devoir d'exemplarité, on lui a rappelé par la condamnation, on lui a rappelé aussi par la casse prison. Ouais. Et je peux vous dire que l'indignation d'Isabelle Balkany, elle s'entend, bien entendu, et bien sûr, c'est son épouse. Mais il y a eu quand même, par rapport à l'affaire Cahuzac, aussi de l'indignation de la part de l'opinion publique qui disait, mais comment ça se fait qu'il échappe à cette casse prison avec quand même ces chefs d'accusation et ces accusations. Donc, on a l'impression tout de même que on a finalement un juste retour des choses. C'est le clap de fin, a dit ma consoeur. Je crois que, voilà, les habitants de Levallois-Perret le voient comme ça, malgré tout.
On n'a pas entendu l'avis d'Éric Delannoy. Rassurez-vous, vous allez avoir la parole dans une petite minute. Tout d'abord, nous marquons une pause, 20h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse.
Une faute mérite sanction, mais la sanction est disproportionnée, déclare Isabelle Balkany ce soir sur France Info. Réaction à sa condamnation, 3 ans de prison, mais surtout à celle de son mari, Patrick, qui lui est à la prison de la santé ce soir. Il écope de 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Leurs avocats annoncent qu'ils vont faire appel. Jean-Marie Le Pen est mis en examen ce soir pour détournement de fonds publics. Il est soupçonné d'avoir pris part à un système d'emploi fictif présumé du Front National au Parlement européen. Des enveloppes destinées à payer des assistants à Bruxelles, mais qui auraient plutôt servi à soulager les finances du parti d'extrême droite. Une 20aine de membres du Rassemblement National, dont Marine Le Pen, sont mis en examen dans cette affaire. Le rapport administratif sur l'intervention de police qui a peut-être conduit à la mort de Steve Maya Canisso à Nantes charge le commissaire qui l'a dirigé. Il aurait manqué de discernement et l'opération n'était pas adaptée au contexte dangereux sur les bords de la Loire. Des précisions données par le ministre de l'Intérieur. Le corps de Steve a été retrouvé dans le fleuve un mois après sa disparition le soir de la fête de la musique. On est dans la deuxième mi-temps entre Lille et Angers, match d'ouverture de la 5e journée de Ligue 1 de football. Les nordistes mènent 2-0. Dans une 20aine de minutes, Amiens reçoit Lyon. Et puis, on n'a pas été bons ce soir, on n'a pas été nous-mêmes. C'est ce que nous dit Nicolas Batum, le capitaine de l'équipe de France de basket. Les Bleus éliminés du Mondial en Chine, ils s'inclinent contre l'Argentine, 80-66. Ils joueront pour le bronze, la petite finale dimanche contre l'Australie.
France Info, et tout est plus clair.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, nous allons essayer de comprendre les arguments des uns et des autres dans cette affaire Balkany. Pour maître Éric Dupont-Moretti, l'avocat de Patrick Balkany, le mandat de dépôt est une humiliation.
Ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Jamais personne ne peut dire sérieusement que M. Balkany aurait tenté de prendre la fuite. Il a été présent à tous les actes de la procédure. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Nous allons bien sûr interjeter appel. Ici, on a battu tous les records. Et dans des affaires, si vous avez la curiosité d'aller regarder, avec des montants fraudés nettement supérieurs, on n'a pas envisagé le mandat de dépôt. Voilà, Balkany a été jugé au pied du mur de l'exemple. Et la justice rendue au pied du mur de l'exemple, c'est rarement une bonne justice.
Éric Delannoy, ce que dit maître Éric Dupond-Moretti, il y a de l'excès dans le jugement, selon vous ?
Enfin, je commenterai pas une mesure de justice. Simplement, on peut dire que ce qu'il paye, c'est effectivement tout ce qu'il y a eu autour, en fait. Enfin, c'est quand même une procédure qui a duré plus de 10 ans. Il y a un imaginaire dans lequel Balkany, pardon, mais s'il avait à côté de Balkany, on mettait toujours crapule. Et le fait qu'en plus, ce soit cette ambiguïté permanente sur lequel il joue de manière effrontée, et pardon, mais malgré la douleur de Madame Balkany ce soir, on voit bien qu'elle continue à jouer sur cette corde-là. Enfin, je veux dire, c'est un couple inoxydable. Mmh. Quand on voit que le quotidien de Levallois, c'est je vais voir les sans-abri et les femmes battues comme seul commentaire qu'elle fait de son activité journalière. Mais enfin, ça, de mon point de vue, ça manque de sincérité. Ouais, pour ce qui concerne l'incarcération, là encore, on est sur du symbole. Enfin, la justice est là aussi pour rendre prégnant quelque chose qui est inacceptable du point de vue du peuple. Donc aujourd'hui, le fait qu'il a des propriétés un peu partout, qu'il y a un jugement qui va se faire dans moins d'un mois, qui risque d'être encore plus lourd, on peut se poser la question de savoir s'il allait pas partir, en fait.
Maud Verniol, vous êtes d'accord avec Éric Delannoy ? Vous pensez que le climat, au fond, politico-médiatique, aura pu peser sur le jugement ?
Non, je pense pas qu'il ait pesé. En revanche, je pense qu'effectivement, il y a un côté très symbolique dans le jugement. Donc après, il faut voir de quel côté on se place. Mais sur le mandat de dépôt, par exemple, moi, je suis assez étonnée d'entendre des commentateurs depuis le début de l'après-midi s'offusquer qu'on envoie Patrick Balkany en prison ce soir. Encore une fois, c'est pas pour se féliciter de ça. En revanche, on peut quand même s'interroger sur le fait que des gens qui subissent la même chose, il y en a quand même tous les jours. Qu'au printemps dernier, par exemple, un homme a pris 6 mois ferme avec un mandat de dépôt. Le soir, il était en prison parce qu'il avait volé un sandwich parce qu'il avait faim. J'entendais pas les mêmes personnes s'offusquer sur les plateaux de télévision. Donc, ces gens-là, effectivement,
Gérard Miller,
c'est très important.
Bah
oui, mais il a raison. Ouais, ces gens-là se pensaient intouchables, et ils ne le sont pas.
Voilà, oui, c'est ça, c'est la revendication, le fait que personne n'est intouchable. Non, mais c'est important de dire que Balkany est un citoyen comme les autres et qu'il y avait le risque quand même qu'il puisse partir. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un dont on ne sait pas si on a retrouvé tous les faux. Et dans un mois, il va prendre 7 ans, quoi. Donc, ça, on peut se poser la question de savoir s'il n'y avait
pas jugé. Franck de Dieu, le feuilleton municipal n'est pas achevé. C'est ce qu'on a compris ce soir également.
Non. Alors, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on joue une sorte de double pouvoir, le pouvoir du peuple contre le pouvoir judiciaire. Et je pense que c'est une erreur parce que je fais encore confiance quand même au peuple souverain pour, je dirais, se détourner de ce vote-là. Je crois que ce que m'a dit ma consoeur sur sur cette page qui se tourne, c'est aussi quelque part la question de se dire est-ce que c'est aussi ce monde affairiste de francilien des années 80 et 90 qui s'achève, et est-ce que on sent bien aussi qu'il y a la volonté de la part des macronistes de dire regardez, on ferme la parenthèse années 80 90, on ferme la parenthèse de l'ancien monde, c'est les affairistes de l'ancien monde finalement seront sanctionnés par la justice, bien entendu, je confonds pas par rapport au pouvoir politique, mais au fond, peut-être va-t-on en reparler, il s'ouvre d'autres affaires d'un nouveau monde, et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être moins accumulatif, moins grave, mais ça suppose autant d'exaspération, je dirais, aujourd'hui que précédemment.
Le niveau d'acceptabilité.
Hélène Pilichowski.
C'est pas parce que ça incarne le nouveau monde que c'est bien et que c'est forcément souhaitable. Tout n'est pas merveilleux et formidable dans ce qui arrive dans le nouveau monde.
Ça, donc, je pense que les Français l'ont
compris. Juger uniquement en disant ça, c'est l'ancien monde, tout le monde était corrompu, il y avait la mini-off. Ce qui est vrai, il y a eu des tas d'excès qui ont disparu aujourd'hui. Mais le niveau d'exigence de la population pour, effectivement, punir ceux qui feraient un pas de travers ne cesse d'augmenter.
Les Balkany ne seront pas réélus.
Moi, je voudrais faire deux commentaires. Premier commentaire, c'est on peut être une crapule et un bon maire. C'est bien ça, toute l'ambiguïté. Donc, c'est deux choses totalement distinctes. Bah oui, quand même, Levallois est une ville bien gérée, qu'on le veuille ou non. Tous les commentaires qu'on a entendus,
vous assumez vos paroles.
Bien sûr, moi, je connais plein de gens qui sont contents. C'est triste,
mais
c'est
une ville. Il y a des villes plus faciles à gérer que d'autres.
Et le deuxième,
issus de l'immigration.
Éric Delannoy, rapidement.
Non, mais le deuxième commentaire, c'est que le nouveau monde, il n'est pas beaucoup plus parfait, mais le niveau d'acceptabilité est tellement bas aujourd'hui qu'on a un deuxième risque qui est en train de venir à grands pas, c'est le risque de l'homme parfait. Le risque de l'homme parfait, c'est Robespierre, c'est la terreur à la fin. Donc il faut savoir mettre les équilibres.
Et ce sera le mot de la fin de cette première demi-heure, 20h et 28 minutes sur France Info. Nous marquons une pause et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite des informés de France Info.
Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, la nouvelle série des podcasts originaux de France Info.
Je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris.
Tous les vendredis, Benjamin Mathieu vous raconte la campagne pour les municipales dans la capitale. Coulisses, confidences, rebondissements.
Il y a certains qui gagnent pas à être connus, quoi. Certains de mes compétiteurs, plus ils passent à la télé, plus on les déteste.
Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, un podcast à écouter sur franceinfo.fr. Disponible aussi sur l'application Radio France. Politique,
enquête,
sport,
invité,
culture,
interview,
économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, et tout est plus clair.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac de Météo France.
Soleil et chaleur ce week-end, quelques degrés de plus demain, le matin souvent 11 à 17 degrés, jusqu'à 22 à Nice. L'après-midi, vous aurez 21 degrés à Cherbourg, 24 à Lille, 26 à Nancy, 27 degrés à Paris, 29 au Mans, à Dijon et à Lyon, 30 à Nantes, Nevers, Marseille et Bastia, jusqu'à 32 degrés à Limoges, Bordeaux et Montauban. Tout ça sous le soleil, juste quelques nuages vite oubliés sur le Grand Est et de la Bretagne à la Normandie. Et puis sur le Sud-Ouest, un petit voile nuageux tamisera le soleil, une ondée ne sera pas exclue. Dimanche, ce voile nuageux concernera toute la moitié sud avec une ondée isolée, un risque d'orage sur les Pyrénées. Au nord, vous aurez toujours beaucoup de soleil. Il fera encore un petit peu plus chaud, 29 degrés à Paris, Alençon, Reims, Mulhouse, 31 à La Rochelle, 32 à Bourges et à Lyon, 33 degrés à Limoges, Clermont-Ferrand ou Agen.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Invitée sur France Info ce soir, Isabelle Balkany évoque de la souffrance, de l'indignation et une sanction disproportionnée, ce sont ses mots, après le jugement du tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui. Pour la première fois, Isabelle et Patrick Balkany ont été condamnés à des peines de prison ferme, 4 ans pour lui, 3 ans pour elle. Condamnation pour fraude fiscale, la justice leur reproche d'avoir caché une partie de leur patrimoine entre 2009 et 2015, notamment un riad à Marrakech, une villa à Saint-Martin ou encore des héritages dissimulés en Suisse et de ne pas avoir payé 4 millions d'euros d'impôts. Patrick Balkany a été conduit en prison ce soir. L'état de santé de sa femme ne le permet pas. Une procédure d'appel doit être engagée. Nul ne peut dire à ce stade avec certitude comment Steve Maya Canisso est mort. C'est la conclusion du rapport de l'inspection générale de l'administration 2 mois et demi après les violences en marge de la fête de la musique fin juin à Nantes. Mais si la cause du décès du jeune homme de 24 ans n'est pas encore établie, le rapport dénonce en revanche les décisions prises par le commissaire de police qui était sur le terrain ce soir-là. Il a manqué de discernement selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.
Concernant l'intervention de la police, la mission relève que celle-ci était légitime dans son principe, compte tenu des jets de projectiles dont les forces de l'ordre faisaient l'objet. Ses modalités, quant à elles, n'étaient pas adaptées. Ainsi, les enquêteurs notent que les décisions prises par le commissaire divisionnaire en charge de l'opération sur le terrain ont manqué de discernement. La vitesse de réaction l'a emporté sur l'analyse, empêchant une manœuvre plus adaptée. Le commissaire divisionnaire en charge des opérations ne pourra plus exercer ses fonctions et sera muté dans l'intérêt du service sur un emploi sans responsabilité de maintien de l'ordre dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire.
Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Un jeune de 19 ans tué ce soir dans le Gers, un autre de 17 ans gravement blessé. C'est un contrôle routier qui a dégénéré près de Pessan. Le conducteur a refusé de s'arrêter, les policiers ont ouvert le feu, l'automobiliste a perdu le contrôle, son véhicule a fait des tonneaux. Des milliers de petits points lumineux actuellement sur une colline qui surplombe les gratte-ciels de Hong Kong. Nouvelle manifestation pro-démocratie dans l'ancienne colonie britannique. Les habitants mobilisés depuis plus de 3 mois ont profité de la traditionnelle fête d'automne pour lancer un nouveau week-end week-end de contestation. Il dénonce l'ingérence grandissante de Pékin dans ce territoire semi-autonome. Il y a une semaine, il ne voulait pas en entendre parler, plutôt être mort au fond d'un fossé, disait-il. Aujourd'hui, Boris Johnson se dit prudemment optimiste pour parvenir à un accord sur le Brexit avec les Européens. Le Premier ministre britannique qui rencontrera lundi le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, ce sera au Luxembourg. Et puis la Ligue 1 de football, le début ce soir de la 5e journée. Lille affronte Angers, le score pour l'instant 2-0 pour Lille. À partir de 20h45, c'est Amiens qui recevra Lyon. 20h33, la suite des informés, c'est tout de suite avec Jean-François Aquilini.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquilini.
La deuxième partie des informés de France Info avec Maud Verniol, chef du service politique de l'Humanité, Hélène Pilichowski, journaliste politique, avec Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing. Alors, inédite depuis 2007, la grève à la RATP a paralysé la capitale et la banlieue, toujours en cours, hein, jusqu'à 380 km de bouchons cumulés ce matin en Ile-de-France, 200 de plus qu'au quotidien, faut-il le rappeler. Le retour à la normale, ce n'est pas avant demain. Les affiches sont partagées, la grève pour défendre les droits à la retraite ou bien le fatalisme, la réforme passera quoi qu'il advienne. Ce n'est pas une grève de privilégiés, expliqué ce matin Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT sur France Info, qui s'est interrogé sur les négociations à venir en matière de retraite.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement accepte de discuter du problème des retraites autrement que de la façon dont il l'a engagé. Parce que la façon dont il l'a engagé, c'est mon projet, on peut discuter à la marge, on peut aménager des choses, mais c'est comme d'habitude. À chaque fois qu'il y a eu un projet de loi concernant le social, on nous a cadré le projet, et on nous dit « vous pouvez discuter à la marge, mais sur le fond, on ne changera rien ». Donc c'est ça qu'on veut. Et or, j'ai entendu le Premier ministre comme vous hier, il a dit « il va falloir travailler plus longtemps, on va regarder à la marge, mais notre projet, on ne le changera pas ». Donc pour régler le problème des grèves, il faut discuter, mais discuter de façon ouverte, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Maud Verniol, vous entendez les craintes de Philippe Martinez, au fond, il redoute que, un petit peu comme pour la réforme de la SNCF, les choses soient peut-être presque un peu déjà écrites à l'avance.
Bien sûr, il y a quelques raisons quand même pour les syndicats de douter des velléités de dialogue et de concertation, même si effectivement, on voit qu'en cette rentrée sociale, c'est pas la même que l'année dernière, que le gouvernement a peur, et d'ailleurs qu'il s'en cache pas.
Vous dites qu'il a peur, vous parlez du coup de semonce aujourd'hui. Hein.
Oui, qu'il a peur, je parle pas forcément d'aujourd'hui, mais Emmanuel Macron s'en est pas caché. Il a dit la crise n'est pas derrière nous en parlant des Gilets jaunes, et il n'y a pas un membre de la majorité dans les couloirs de l'Assemblée nationale qui n'est pas conscient du climat incandescent de cette rentrée sociale. Donc, dans la communication, il y a de l'assouplissement, on prend un peu plus son temps. Après, les syndicats ont raison d'en douter, puisqu'effectivement, la consultation, quand même, avec l'exécutif depuis le début du quinquennat, c'est un peu ce que disait Philippe Martinez à l'instant. Si je traduis, c'est cause toujours tu m'intéresses, je vous mets le projet sur la table, je consulte, mais j'entends pas tout à fait. Donc,
Éric Delannoy, sur ce que dit à l'instant Maud Verniol. Ouverture ou pas ouverture à la négociation?
En fait, toute la manière dont a été traité ce dossier depuis le début montre l'inverse, en fait. Donc après, on peut dire ce qu'on veut, mais Delevoye, par son comportement, son discours, ça fait juste 2 ans qu'il discute avec les syndicats. Les seuls, d'ailleurs, à avoir refusé de discuter pendant très longtemps, ça a été la CGT, qui, d'ailleurs, ne veut pas entendre parler de ça. Hein. C'est une question de philosophie.
Vous êtes d'accord que les gouvernements établissent souvent une feuille de route? Sarkozy faisait ça très bien. Et puis, il fallait que les syndicats rentrent là-dedans.
Macron a été élu sur un programme. Dans ce programme, il avait été écrit des choses. Enfin, le peuple a décidé. Maintenant, la concertation, elle est réelle. Et en plus, Delevoye l'a rappelé. Il a rappelé que rien ne se ferait sans la concertation. Ça fait 2 ans qu'ils discutent. Tous les points techniques ont été mis sur la table. Rien n'a été décidé. Je veux dire, je ne vois pas sur quelle base, par rapport à la personnalité de Jean-Paul Delevoye, on est capable de dire ça. En fait,
Hélène Pilichowski.
C'est étonnant, mais Philippe Martinez, on sait très bien comment il procède. C'est toujours la même chose. Il y a un chiffon rouge. Non, on n'est pas d'accord. Nous, on veut pas de ça. C'est nous qui voulons définir le cadre du projet de réforme des retraites. Eh bien non, il y a un pouvoir politique qui a été élu effectivement sur un programme et effectivement, il y a eu en plus énormément de concertations, mais enfin, je sais bien que quand on ne change pas le cœur du projet, on dit qu'il n'y a pas eu de concertation, qu'il y a eu simplement des échanges stériles. Mais non, mais Philippe Martinez, je vous rappelle que la CGT, vous devez savoir ça beaucoup mieux que moi, n'a signé aucun accord national sur quelque réforme que ce soit depuis des années. La CGT signe des accords.
Un accord sur lequel ils ne sont pas d'accord.
Mais ils ne sont jamais d'accord.
Plus la politique de la HSI, ils ne sont pas d'accord avec Macron. Vous n'allez pas leur reprocher
dans les élections.
Non, c'est un syndicat.
Alors attendez, puisque l'on parle de Jean-Paul Delevoye, on va entendre ses arguments justement pour que vous puissiez rebondir là-dessus. Tiens, vous, Franck de Dieu, un instant, on écoute Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire, et puis ensuite vous réagissez.
L'écriture du rapport, j'en suis responsable. Donc le décideur est toujours unique. Mais l'élaboration de la décision est collective. Et sur un certain nombre de sujets, j'ai considérablement évolué, notamment sur les droits familiaux, grâce à la contribution des citoyens. Et ce qui est proposé, c'est pas que le citoyen remplace le décideur. Au contraire, c'est de renforcer le décideur politique, de renforcer le décideur syndical, mais de responsabiliser le citoyen, de dire ce projet de société vous concerne, soyez acteur vous-même de ce pacte social.
Jean-Paul Delevoye, chez nos amis de France Inter, Franck de Dieu, il dit qu'il a évolué, Jean-Paul Delevoye.
Il joue, vous avez remarqué, les citoyens, le grand débat qui est maintenant la martingale pour ça, supposément désamorcer tout conflit, il joue les citoyens contre les syndicats. Je pense que c'est pas forcément malin. Effectivement, on a l'impression que c'est un peu comme d'habitude. Comme d'habitude, au niveau de la forme, il y a une concertation, mais à la fin, finalement, on sait déjà, en gros, il y a déjà une feuille de route. Ouais. Et comme d'habitude, sur le fond. C'est-à-dire qu'en gros, on avait l'âge pivot, mais qui va être probablement abandonné. Et on va avoir, comme d'habitude, depuis des années, on va jouer sur ce levier qui est celui de la durée de cotisation. Et là, bon, on peut en discuter de ça, hein, de se dire finalement, jouer sur la durée de cotisation, c'est faire payer les cotisants. La CGT propose autre chose.
Je dis pas que c'est forcément bien. Elle propose quoi, la CGT, en fait ?
Si vous regardez plus précisément,
une nouvelle recette de rester sur un système solidaire.
Elle propose, par exemple, d'augmenter les cotisations et peut-être les cotisations patronales, c'est-à-dire de faire.
On augmente la dépense publique.
Cotisations patronales.
C'est pas la même chose.
Non,
mais attendez.
On fait payer les entreprises.
Finissez.
C'est assez malin. Ils disent un bonus malus. Vous voyez, les incitations. Il n'y a pas que les économistes qui connaissent la logique des incitations. On peut créer un bonus malus sur des emplois courts. Ils disent les patrons qui emploient surtout des emplois courts qui a une valeur ajoutée qui repose beaucoup sur le capital et pas beaucoup sur le salariat, et bien ils vont peut-être payer cotiser un peu plus. Ouais. Tout ça, c'est sur la table. C'est pas forcément génial, je sais pas, mais ça se discute. Moi, ce que je reproche, c'est qu'on ne discute pas d'autres variables assez importantes sur la question des retraites. On a fait un papier, nous,
Marianne.
Où, par exemple, vous avez la question de l'autre politique, c'est-à-dire de créer une sorte de relance d'investissement. On va en parler sur les mouvements sociaux, mais vous avez quand même un État qui s'en est à taux négatif.
Fait que l'espérance de vie a pris 10 ans en 30 ans,
elle n'échappera pas au fait qu'une relance de l'investissement, c'est des gains de productivité et c'est aussi de l'emploi supérieur. Et vous savez qu'un million d'emplois,
c'est des importations
en plus, 1 million d'emplois en plus, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OFCE. 1 million d'emplois en plus, c'est 7 milliards de plus dans les caisses de retraite. C'est-à-dire que c'est plus que les régimes spéciaux.
Mais il y a des emplois qui ont été créés.
Attendez, Hélène Pichowski, je vous propose de garder vos arguments, maintenez la pression là. 20h40 sur France Info, on revient dans un instant. Rassurez-vous, on reste sur les retraites. Tout d'abord, le rappel de l'info avec Jules Dequisse.
Une énorme charge émotionnelle et de la souffrance. Voilà ce que dit ressentir Isabelle Balkany ce soir sur France Info. Le tribunal correctionnel de Paris la condamne à 3 ans de prison. C'est 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale pour son mari Patrick avec mandat de dépôt. Il est donc ce soir à la prison de la Santé à Paris. Les deux époux écopent aussi d'une peine de 10 ans d'inéligibilité. Leurs avocats vont faire appel. Edward Snowden demande le droit d'asile à Emmanuel Macron. Accueillir quelqu'un comme moi, ce n'est pas attaquer les États-Unis, dit le lanceur d'alerte dans une interview qui sera diffusée lundi sur France Inter. C'est lui qui a révélé l'existence d'un vaste système de surveillance mondiale de l'Internet et des communications par les États-Unis. Il vit depuis en exil en Russie. J'attendais plus de précisions de l'intervention de police, regrette l'avocate des 89 plaignants dans l'affaire Steve Maya Canisso. Réaction au rapport administratif sur l'opération sur les bords de la Loire. Il a été dévoilé par le ministre de l'Intérieur. Il révèle que l'intervention de la police était mal adaptée au contexte dangereux et que le commissaire qui l'a mené manquait de discernement. Les salariés de General Electric refusent le sort que leur destine leur direction. La suppression de plus de 1000 emplois sur le site de Belfort. L'intersyndicale va proposer un plan alternatif la semaine prochaine. Il souligne que les ventes de turbines à gaz produites sur le site explosent en ce début d'année et il demande notamment que le site Belfortin reste un centre de décision du groupe américain. Et puis à quelques minutes de la fin du match, Lille mène toujours contre Angers 2-0, ouverture de la 5e journée de la Ligue 1 de football, alors que dans moins de 5 minutes maintenant, c'est le coup d'envoi entre Lyon et Amiens.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je vais essayer de faire une courte synthèse de la situation. Maude Verniol, à ma gauche, estime qu'il faut garder le système et augmenter les recettes. Franck de Dieu parle de faire preuve de beaucoup plus d'imagination en la matière. Nous avons Hélène Pilichowski qui estime que la CGT est toujours dans son registre. Et vous, Éric Delannoy, vous estimez qu'on va, une fois de plus, proposer d'alourdir la dépense publique, c'est ça?
Pas la dépense publique, je suis d'accord, c'est alourdir les prélèvements obligatoires.
Les prélèvements obligatoires, pardonnez-moi.
Au final, ça revient à alourdir les impôts dans un système où la France est déjà quand même une grande maîtresse en la matière. Moi, je voudrais qu'on revienne à quelques variables qui sont extrêmement clés. La France, aujourd'hui, a l'espérance de vie la plus élevée d'Europe et a l'âge de la retraite la plus faible d'Europe. Ça veut dire qu'on a à la fois les retraités les mieux payés d'Europe en moyenne, parce que je ne dis pas que c'est également réparti sur l'ensemble des retraités, c'est pas ce que j'ai dit, et on a la durée de vie en retraite la plus élevée. Est-ce que ça, c'est tenable en termes de trajectoire? Personnellement, quels que soient les niveaux de recettes qu'on essaie d'y mettre, je pense que c'est pas tenable dans le temps. La statistique, elle est très simple, c'est l'OCDE qui la donne. Dans 1950, on avait 5 actifs pour un retraité. Ouais. En 2040, on en aura 2. Pour ce qui concerne la RATP, on en aura 0,8. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez chaque année 780 millions d'euros de mes impôts, de vos impôts, qui vont financer le train de vie de retraités de la RATP.
Beaucoup d'accord plus.
Alors, chaque année, 780 millions de
transferts.
Simplement, moi, ce que je dis par rapport à la répartition de la recette et de la finance publique, je préférais ces 780 millions d'euros à y financer l'augmentation des professeurs pour préparer l'avenir, exactement, plutôt que de financer le train de vie de retraités qui partent à 57 ans.
D'un mot, parce
que avec des retraites supérieures à 25% du régime général.
Bonne dernière.
Moi, juste un point. Je ne peux pas laisser dire que les salariés de la RATP sont des privilégiés. Les privilégiés dans ce pays, c'est les patrons du CAC 40 qui viennent encore. C'est le sujet principal. On est dans le cœur du sujet.
Le sujet, c'est qu'on a des millions de salariés qui prennent des cotisations. Les privilégiés.
Vous osez dire que les salariés de la RATP sont des privilégiés. C'est scandaleux.
Et alors, justement, les autres retraités, oui.
Laissez-moi finir, vous parliez de Jean-Paul Delevoye tout à l'heure. Le problème, ce n'est pas un problème de personne. Le problème, on est face à un projet de société.
Deux
projets de société différents. Et d'ailleurs, Jean-Paul Delevoye, il a le courage de venir débattre avec Philippe Martinez. Il vient à la fête de l'humanité. Demain, on est très content de l'accueillir et on va discuter en républicain, argument contre argument là-dessus. Deux projets de société. Il y a d'un côté un système solidaire qui se dit que dans la 6e puissance mondiale, peut-être qu'on peut offrir un troisième âge de la vie, qu'on ne vit pas que pour travailler.
Mais on peut offrir un troisième âge de la vie.
Et que de l'autre côté,
on nous explique qu'on
vit pour travailler et que allongement de durée de vie signifie automatiquement allonger de la durée du travail. C'est un débat philosophique entre deux projets de société.
À cause du financement, c'est tout.
Franck de Dieu, question. Est-ce que vous avez l'impression que nous allons inéluctablement vers le passage au système par points ou, comme Maude Verniol le suggère, qu'il y aurait peut-être un statu quo aménagé en la matière?
Je pense que le système par points, il a été bien orchestré avec le rapport Delevoye. Parce que finalement, on a parlé du système pivot avec la retraite le système par points qui a un caractère universel, à la durée de cotisation. On a totalement oublié les histoires des régimes spéciaux. Et il faut bien l'avouer que les politiques sont passés un peu à côté du mouvement de grève de la RATP, vu, c'est aussi parce qu'on se disait, au fond, avec la passe d'armes entre Delevoye et Édouard Philippe, on a presque oublié la question des régimes spéciaux. Sur l'histoire du point...
Le régime par point a été choisi. Pourquoi? Précisément pour régler le problème des régimes spéciaux, pour que tout le monde soit dans le même système. C'était assez habile pour résoudre ces inégalités.
Je dois dire aussi que c'était assez habile pour, quelque part, réviser au fil du temps la valeur du point. C'est-à-dire que là, vous pouvez jouer. Parce que dans les leviers, il faut expliquer quand même ça aux auditeurs et aux téléspectateurs, c'est que dans les histoires de leviers, vous avez aussi le levier de la pension. Vous êtes obligé, ou vous pouvez aussi faire payer le futur pensionné ou le pensionné. Bon, certains considèrent, à droite comme à gauche d'ailleurs, de dire au fond pourquoi on ne le ferait pas. Après tout, on a un système de retraite avec des pensionnés qui sont assez privilégiés lorsqu'ils ont été dans des cadres sup. Pourquoi pas ne pas les faire payer. Le système par points, ça pouvait permettre de moduler selon les conditions démographiques. Les Allemands font ça, par exemple.
On y va. Mais on y va. Alors, mais oui. C'est sur la table. Mais vous savez,
c'est sur la table.
Je vais vous dire une chose, contrairement à ce que vous pensez, Jean-Paul Delevoye, pendant deux ans,
a travaillé. Soyez un peu optimiste.
Pas en même temps. Ils ont travaillé pendant deux ans. Vous savez, ils ont travaillé. Non, mais, enfin, on a l'impression que, encore une fois, on met sur la table quelque chose qui n'a fait l'objet d'aucune concertation.
Absolument, mais je sais bien que.
Je suis désolé. Vous ne le savez peut-être pas, mais Jean-Paul Delevoye a fait des milliers de réunions.
Je le sais, et d'autre part, j'ai pas donné du tout l'impression de dénigrer le montage de Delevoye. Il est par ailleurs largement entouré par des gens.
Quand on dit qu'il travaille,
Le débat est vif. Le débat est vif sur les retraites, et c'est bien normal. Ça concerne l'ensemble de la population. On a du mal à se parler dans ce pays. Est-ce qu'on se parle au plus haut niveau? La question a été posée ce matin par Marc Fauvel et Renaud Dely à Philippe Martinez. Quand, pour la dernière fois, a-t-il vu rencontrer le président Emmanuel Macron? Écoutez la réponse du leader de la CGT.
Pourquoi il ne nous recevrait pas? On n'est pas une partie négligeable dans cette... C'est l'acte 2, on discute avec tout le monde, non? C'est ce que j'entends, vous l'avez entendu aussi.
Votre dernier rendez-vous avec Emmanuel Macron?
Je perds la mémoire, mais je crois que c'est juin 2017.
Juste après son élection, vous ne l'avez pas revu depuis?
En tête à tête, non.
Vous n'avez pas vu le chef de l'État depuis plus de deux ans?
Je ne sais pas, il ne doit pas aimer les moustachus, peut-être.
Hélène Pilichowski, est-ce qu'il faudrait...
Mais Philippe Martinez est aussi le spécialiste. Oui. C'est aussi quelqu'un qui refuse très souvent les invitations à une table de discussion. Ça, c'est vrai. Donc, quand il dit « je ne l'ai pas revu », si, bien sûr qu'il a refusé plusieurs invitations. Ben non, il ne faut pas dire le contraire. Non, mais moi, ce qui me choque dans votre plaidoyer, c'est que on a des systèmes qui ne sont pas financés à l'heure actuelle. Celui de la RATP, donc les cotisations ne réussissent pas à combler les pensions qui sont versées, à financer les pensions qui sont versées. Et donc, il faut quand même chercher des moyens, excusez-moi, de voir comment équilibrer les systèmes.
Le débat est sur la table, il ne faut pas les négliger.
On a choisi de trouver quelque chose de mieux, effectivement, que d'augmenter les cotisations. Parce que les salariés aussi, on va augmenter leurs cotisations. Vous croyez que c'est les patrons tout seuls qui vont payer le déficit? Non. Les jeunes salariés, moi, je vais vous dire une chose, ils sont peut-être aussi lassés, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et tout ça, et qui sont écrasés de charges dès qu'ils ont un petit job parce qu'ils ont fait des études où ils sont un peu cadres et tout ça, où ils travaillent 12 heures par jour pour payer les cotisations et fournir des régimes qui sont totalement obsolètes aujourd'hui parce qu'ils ont été mis sur pied il y a 20, 30 ou 40 ans et qui ne sont plus financés.
Éric Delannoy, encore un commentaire.
En train de jouer la guerre des armes.
Attendez, dernier commentaire. La ligne générale d'un syndicat comme la CGT, c'est un syndicat qui est incroyablement conservateur, qui s'arc-boute sur les systèmes qui ont été mis en 1945 dans des conditions démographiques qui n'avaient rien à voir, dans des conditions d'évolution du travail qui n'avaient rien à voir, et on voit bien qu'ils ont du mal à faire en sorte d'évoluer. On s'arc-boute sur la troisième vie.
Ne tombons pas dans le piège quelque part tendu par Martinez en disant « je l'ai vu en 2017, mais non, je ne l'ai pas vu, mais oui, il refuse les invitations ». C'est de la comédie, ils sont dans un rapport de force qui est légitime, et ça fait partie, je dirais, de la rhétorique syndicale.
C'est normal.
Ça fait des décennies que ça existe, ceci n'est plus un débat, c'est de la cacophonie.
Non,
s'il vous plaît, 20h50 sur France Info, respirez, détendez-vous, nous allons revenir dans un instant. Le rappel des titres tout de suite avec vous, tout d'abord Jules de Kiss.
Demain, j'irai apporter ses affaires à mon mari, déclare Isabelle Balkany sur France Info. Demain donc, elle se rendra à la prison de la Santé à Paris, où Patrick Balkany est incarcéré depuis la fin de l'après-midi. Il vient d'être condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. C'est 3 ans pour son épouse qui reste libre et assure l'intérim à la mairie de Levallois-Perret. Leurs avocats vont faire appel. La mise en examen de Jean-Marie Le Pen ce soir pour détournement de fonds publics. Il a répondu toute l'après-midi à deux juges sur l'affaire des emplois présumés fictifs du Front National au Parlement européen. Un système qui aurait été organisé par le parti pour soulager ses finances en difficulté. L'institution européenne estime le préjudice à 7 millions d'euros entre 2009 et 2017. C'était une mesure attendue depuis longtemps par celles et ceux qui consacrent leur journée à accompagner un proche malade ou dépendant. L'État va indemniser à hauteur de 40 euros net par jour les aidants. Mesure prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. 4 millions de Français seraient concernés selon le gouvernement. Lille est en train de s'imposer 2-1 à domicile contre Angers en ouverture de la 5e journée de Ligue 1 de football. On est dans le temps additionnel, il reste quelques secondes à jouer. Un autre match commence, celui entre Amiens et Lyon. On joue depuis 5 minutes et aucun but n'a été marqué. Et puis après avoir fait tomber l'ogre américain, les Français butent sur les Argentins. Les Bleus éliminés du mondial de basket en Chine après leur défaite en demi 80-66. Il leur reste un match à jouer pour décrocher la médaille de bronze. Ce sera dimanche contre l'Australie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
À propos de la grève aujourd'hui à la RATP, nous recevions tout à l'heure Marc Lavoine qui demain chantera au concert de l'Humanité. Nous le recevions dans le 1850 France Info et on lui a posé la question de ce qu'il pensait au fond de ce mouvement de grève. Écoutez bien.
Moi, mes parents ont toujours été du côté des grévistes. Toujours. Ouais. Donc, je serai toujours du côté de mes parents. La politique, c'est pas seulement une histoire de vedettes à la télé. C'est des gens qui travaillent tous les jours au quotidien, dans leur ville, quotidien, village, dans leur circonscription, pour essayer d'arranger la vie des gens.
Donc, vous dites quoi, compréhension et soutien, j'imagine.
Moi, je soutiens les gens qui travaillent tous les jours pour améliorer la vie des autres.
Maud Verniolle, l'Humanité, partenaire de la fête en question.
Organisatrice.
Absolument. Organisatrice, pardonnez-moi. Commentaire sur ce que dit à l'instant Marc Lavoine.
Commentaire très positif. Marc Lavoine est un ami du journal qui a toujours eu des mots très sympathiques à l'égard de la fête de l'Humanité. Il est le bienvenu et il va y jouer encore ce week-end. On va recevoir aussi Monsieur Delevoye donc demain.
Il y a demain un face-à-face
demain,
entre Jean-Paul Delevoye et Philippe Martinez.
Oui, tout à fait. Organisé à la fête de l'Humanité. Ouais. Et vous savez, ça étonne tout le monde, mais
ça m'étonne pas de Jean-Paul
Delevoye. Voilà, mais c'est très courageux de sa part et nous, on est ravi de l'accueillir parce que nous sommes des républicains qui aimons le débat démocratique et les gens ont l'air de le découvrir, mais la fête de l'humanité, il y a des personnalités politiques de tous bords.
Ah non, personne ne découvre. Il y a toujours eu, il y a Johnny Hallyday, il y a eu, bien sûr.
Non, mais je parle de personnalités politiques qui viennent intervenir. Et c'est le seul endroit où vous verrez sur une même table un dirigeant de droite, un astrophysicien, une chômeuse du Nord et un salarié de la RATP. Et c'est pour ça que cette fête, c'est un trésor national et qu'il faut y aller parce que souvent, voilà, les victimes.
Donc, face à face demain, Delevoye, Martinez à la fête de l'UMA. Éric Delannoy, vous avez la sensation aujourd'hui qu'il y a une journée difficile, de galère dans les transports et qu'au fond, il y a une forme d'assentiment général.
D'assentiment général vis-à-vis de cette grève, mais je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant de qui fait grève. Enfin, je veux dire, et pourquoi on fait grève? Moi, je suis pas d'accord pour dire que cette grève représente une défense des retraites. Je suis d'accord pour dire que cette grève défend un corporatisme et une certaine retraite. Moi, je suis désolé. On disait tout à l'heure, Maud disait tout à l'heure que c'est pas des privilégiés. Bah, moi, un système de retraite dans lequel je suis payé entre 25% et 60% de plus que les autres retraités, dans lequel je pars en retraite en moyenne à 55 ans et que je ne finance que par la solidarité publique, j'appelle ça des privilégiés. De la même manière que quand on est sur l'infirmière, ils n'ont pas cette possibilité d'avoir le même système. Quand on est sur les conducteurs de bus de Bordeaux, on n'est pas sur le même système. On est donc bien sur une mise en pression d'un syndicat qui a fait pression sur une société en prenant en otage en permanence. Et je vais vous dire moi, ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que si on n'est pas raisonnable dans la volonté de changer ou dans la volonté de revenir à quelque chose de plus raisonnable, on va accélérer l'automatisation des métros. Aujourd'hui, les seuls métros qui fonctionnaient, c'était la 1 et la 14. Ouais, là, on n'a plus de problème avec des syndicats qui ne veulent pas bouger et qui sortent au bout.
Non, je voudrais simplement dire ce que dit Marc Lavoine. Moi, on a toujours soutenu les gens qui travaillent. Mais tout le monde soutient les gens qui travaillent. Et excusez-moi, les femmes qui sont ouvrières dans le textile ou les hommes et les jeunes ouvriers, les ouvriers qui travaillent et qui ont des petits salaires et qui payent des cotisations, je vois pas pourquoi ça serait les soutenir que de vouloir absolument préserver des systèmes de retraite qui sont totalement dépassés et non financés.
Franchement, il y a un risque. J'entends les arguments d'Hélène Pichowski et d'Éric Delannoy. Est-ce qu'il y a un petit risque de boîte de Pandore finalement?
Oui, à force
de,
voilà. Absolument. Parce que là, on ouvre la boîte. J'ai fait la liste. Vous avez dans la semaine qui vient une manifestation des finances publiques, des retraites, des urgences, d'EDF. Donc effectivement, il y a quelque chose. Il y a quand même une rentrée. J'allais dire, selon l'expression consacrée, la rentrée sera chaude. C'est un peu une sorte de clin d'œil, mais. Ce coup-ci, c'est peut-être
Je vois que ça
vrai.
Me fait saliver.
Pourquoi? Non, mais parce qu'il y a
la rentrée sera
chaude. Il y a un impensé qui s'est produit et qui devient pensable, c'est quand même les gilets jaunes par rapport à l'année dernière où on a vu une sorte de coagulation des mécontentements.
Spontané. Et là, non, ce on que a je souhaité, crois, il n'y a pas ce, eu beaucoup spontané. De coagulation. Bah,
il s'est passé quelque chose. On ne peut pas juger l'importance, je dirais, politique et sociologique des gilets jaunes à l'aune du nombre de personnes qui défilaient à l'acte 34. Donc, ce que je crois en revanche, et ça me paraît nouveau, j'ouvre juste simplement une piste, c'est que je crois que les manifestations qui vont se produire ne sont pas forcément, pour ce coup-ci, des manifestations défensives. J'ai l'impression qu'il y a quand même l'envie de produire quelque chose, de changer véritablement la donne.
Et
juste un petit mot. Il va y avoir le 25 septembre la présentation du budget de Darmanin. Là, je crois qu'il est vraiment attendu au tournant. C'est-à-dire que il y aura.
Oui,
c'est un vaste sujet, mais
le vif.
Non, mais
du sujet.
Ça tombe bien. Mais ce que
dernier
vous
dites, mot.
Ça tombe bien parce que Jean-Paul Delevoye a appelé à la concertation, donc c'est très bien. Et il ne faut pas oublier que avant de s'arc-bouter, il faut se rendre compte que ce qu'on met en place en termes de système de retraite, ça prendra effet sur 20 ans.
Et
donc, il ne faut pas avoir peur.
La une de Marianne,
c'est quand la République a capitulé, il y a 30 ans, on avait l'affaire des voix à la Creil, on revient sur cette affaire et surtout, on braque le projecteur sur cette année 89 où la gauche républicaine a cédé le pas par rapport, malheureusement, à la gauche plus communautariste.
Maud Verniol, Luma, c'est l'organisateur de...
Oui, c'est la fête du journal.
Du journal, la une du journal.
Et la une du journal, je ne l'ai pas là, mais je l'ai en tête.
Ce sera la fête de l'humanité.
C'est les allées de la fête de l'humanité, avec écrit « Venez à la fête, changez de climat ».
Avec l'Huma dimanche. Merci à vous, merci à tous les quatre. Merci à Éric Delannoy, à Franck Dedieu, Hélène Pilichowski et vous, Maud Verniol, d'avoir participé à ces informés de France Info. Demain soir, vous aurez le plaisir et le bonheur de retrouver Neyla Latrousse. Bonne soirée.